Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. En Exode chapitre 19, nous avons la description des préparations pour une occasion très particulière. Reportons-nous en Exode chapitre 19. Pour commencer aujourd'hui, lisons quelques versets ici qui mettent un peu la scène. C'est un peu une scène ténébreuse aussi, qui est nécessaire pour ce qui va suivre. Exode chapitre 19. Lisons à partir du verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà une scène ténébreuse nécessaire, bien sûr, pour cacher la gloire de Dieu, les yeux du peuple. Continuons avec le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Donc nous voyons ici que les ténèbres, la fumée, toute la distance ici, était nécessaire pour que les gens ne puissent entendre sans périr. Après avoir reçu les instructions concernant ce qui allait se passer, Moïse descendit de la montagne. Ce qui se passe au verset 25, il se joint au peuple afin d'écouter avec eux la voix de l'Éternel. Ensuite, Dieu parle directement au peuple d'Israël. Ce peuple était préparé avant et s'était préparé avant et s'était présenté devant Dieu. Comme nous allons voir, ce peuple qui avait vu les miracles des 10 plaies avant leur sortie d'Égypte fut effrayé par la voix tonnante de l'Éternel. Continuons maintenant en Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 et verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ensuite, nous avons les 10 commandements qui suivent. Et puis, au verset 18. Verset 18. « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. » À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Revenons maintenant au verset 2. Il est important de noter ici que c'est l'Éternel Dieu qui prononça les 10 commandements directement aux oreilles du peuple. Et c'est que c'est Dieu qui dicta à Moïse toute la loi. Au verset 2, c'est l'Éternel qui se présente comme le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel qui a créé le peuple d'Israël en donnant un fils à Abraham et Sarah, et en s'occupant de la famille d'Israël même quand elle était esclave en Égypte. Le verset 2, l'Éternel a démontré sa miséricorde et son pouvoir tout en même temps. C'est tout à fait logique, après tout ça, que l'Éternel donne des ordonnances à ce peuple. En ce moment d'Exode 20, ils étaient un peuple sans pays. Avant de leur donner un pays, l'Éternel leur a donné sa loi. Pour toutes les générations, qui serait applicable dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque d'histoire, dans n'importe quel contexte social. Dans tous les cas, le peuple de Dieu depuis ce moment et jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'identifie par la loi de Dieu. Malheureusement, le peuple d'Israël semble d'avoir amené avec eux des faux dieux d'Égypte. Après des centaines d'années en Égypte, la culture de l'Égypte avait remplacé la connaissance de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les idoles que le peuple d'Israël a amenées avec lui n'étaient pas des jouets qui ne valaient rien. Ces idoles représentaient tout ce qu'il y avait, le bien et le mal, de la culture égyptienne, aux yeux d'Israël, bien sûr. Ces idoles représenteraient un paradigme de la conception du monde entier pour ce peuple. Nous pouvons imaginer que ce sont ces idées qui étaient dans l'esprit des enfants d'Israël quand ils écoutaient la voix de Dieu. Par conséquent, tout ce que l'Éternel allait leur dire était précédé par une sorte de présentation. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et puis, le Dieu de l'univers a prononcé ces mots. Au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voici ce que nous appelons le premier commandement. Le premier des 10 commandements. Il était très important pour les enfants d'Israël qui venaient de sortir d'Égypte, un pays où les faux dieux étaient nombreux. Il est aussi très important pour le chrétien aujourd'hui qui est appelé à suivre la voie de Dieu, tout en vivant dans un monde qui est rempli de faux dieux. Dieu a permis à l'homme d'inventer des faux dieux. Mais le premier commandement nous appelle à rester focalisés sur l'Éternel, notre Dieu, le seul vrai Dieu. Nous avons un seul Dieu qui dépasse tous les faux dieux de ce monde. Aujourd'hui, examinons le premier commandement dans ce contexte. Afin de mieux comprendre le premier commandement et sa signification, voici 3 questions que nous allons examiner aujourd'hui. D'abord, quels sont les faux dieux de ce monde? Quels sont les faux dieux de ce monde? Deuxièmement, qui est notre Dieu? Et finalement, qu'est-ce qu'il attend de nous d'après ce premier commandement? Donc, quels sont les faux dieux de ce monde? Commençons d'abord avec la première question. Quels sont les faux dieux de ce monde? Les dieux, nous avons déjà vu et nous savons tous que les dieux de ce monde peuvent être confectionnés par l'homme. Et ceci se passe depuis l'Antiquité. En fait, les faux dieux existaient dans l'Antiquité et les faux dieux existent bien sûr aujourd'hui. Dans un article de Françoise Dumont, professeur émérite d'histoire des religions à l'Université de Strasbourg, elle présente une explication intéressante de la représentation des dieux en Égypte. Elle explique que les Égyptiens ont élaboré des mythes pour expliquer le monde. Elle donne des exemples de ces dieux égyptiens qui étaient associés avec un ou plusieurs phénomènes différents. Par exemple, la personnalité d'Osiris est un des plus anciens dieux du panthéon égyptien, représente d'après elle la puissance qui se manifeste à travers les eaux fertilisantes de la crue du Nil. Voilà un exemple d'un faux dieu qui est inventé par l'homme, inventé plutôt pour expliquer un phénomène qui existe dans le monde. En Ésaïe, le prophète a préservé un avertissement par rapport aux faux dieux, et en particulier par rapport aux idoles. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Commençons avec le verset 5. Ésaïe chapitre 46 et le verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Voilà une sorte d'avertissement contre la fabrication, la confection des faux dieux. En particulier ici, nous voyons les idoles qui sont le sujet de ces versets. Reportons-nous maintenant en Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44 et maintenant le verset 9. Ésaïe 44 et le verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Voilà un deuxième avertissement pour nous dire que ces idoles, ces faux dieux, ne servent à rien de bien. Ce sont, comme c'est écrit, que la vanité. Voilà, nous avons des exemples concrets de l'Antiquité, des idoles qui n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Passons maintenant à un faux dieu qui est, en fait, un esprit malin et qui veut prendre la place de Dieu. Comme nous avons vu, c'est l'homme qui fabrique les idoles, mais Satan, par contre, veut des louanges et de l'adoration. Il est, en fait, prêt à payer en échange de cette adoration, si quelqu'un est intéressé. Rapportons-nous pour voir un exemple de cet échange, si vous voulez. On est à l'évangile de Matthieu, où nous avons ici la tentation de Jésus. Lisons de cette troisième tentation ici, en Matthieu chapitre 4 et verset 8 à 9. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà ce que Satan, le diable, a fait pour essayer de tenter Jésus-Christ. Combien de fois le diable a-t-il fait des promesses comme celle-ci à l'humanité? Et combien de fois l'humanité a-t-il répondu? C'est lui, en fait, c'est Satan qui est derrière tous les faux dieux de ce monde. Depuis le tout début de l'humanité, Satan est en train d'essayer de rendre l'homme éloigné de Dieu, de tourner la voie de l'homme pour lui éloigner de Dieu. Et ça continue même aujourd'hui. Cette déception et cette tentation qui, en fait, a ses sources en Satan, le diable. Donc, dans le cadre de mieux comprendre la signification du premier commandement, nous avons déjà vu maintenant qu'il y a des faux dieux dans ce monde qui aimeraient bien remplacer Dieu, l'éternel Dieu. Et c'est en fait Satan, l'esprit malin, qui est derrière, qui est la force invisible de cette déception de l'humanité. Mais c'est quand même un choix. C'est quand même un choix de l'homme à suivre cette voie si la déception arrive à l'homme. Mais aujourd'hui, ce choix a été déjà fait par le choix de l'humanité à complètement oublier Dieu, le vrai Dieu de ce monde. Donc passons maintenant à la question suivante. Qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? C'est peut-être une question qu'on ne pose pas très souvent, mais la Bible nous révèle que notre Dieu, le vrai Dieu de l'univers, est connu par son caractère d'amour. Apportons-nous en 1 Jean chapitre 4, nous connaissons ce verset, 1 Jean 4 et verset 8, où nous trouvons un aspect, un grand aspect de du caractère de Dieu, son caractère parfait et plein d'amour, jusqu'au point que l'apôtre Jean a écrit ici, Dieu est amour. C'est 1 Jean et chapitre 4 et verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et voilà au verset 9 l'expression de cet amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Très intéressant ici de voir que Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que c'est tout? Dieu est amour, oui, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est la seule chose que nous pouvons apprendre par rapport au caractère de Dieu? En fait, il y a toute une liste de caractéristiques de notre Dieu que nous pouvons établir depuis les Écritures. Nous venons de voir que l'humanité ne cesse d'inventer des dieux ou de concevoir un dieu imaginaire d'après les attributs qu'il estime désirables. Regardons ensemble quelques-unes des caractéristiques de notre Dieu qui se trouvent dans la Bible et qui nous aident à répondre à la question « Qui est notre Dieu ?» Est-ce que nous connaissons notre Dieu? C'est ça la question, vraiment. Qui est notre Dieu? Comment connaître le Dieu le Dieu de l'univers? Reportons-nous en Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, et le verset 4. Ici, ce verset s'appelle, en tradition, le schéma. Et nous allons voir que Dieu déclare qu'il est le seul. Il est le seul, il est un, d'après la traduction, par rapport à la traduction. Nous allons voir qu'il y a une variance dans la traduction entre Louis Seconde et la nouvelle Bible Seconde. D'abord, dans la version Seconde, Deutéronome chapitre 6 et le verset 4, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Maintenant, lisons depuis la nouvelle Bible seconde, le même verset, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Et celui-ci correspond plutôt à la version roi Jacques, où on voit que « le Seigneur est un ». Qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est un? En fait, le mot hébreu, echad, est traduit seul, ou un, comme ici. D'après la traduction, on voit des variantes de traduction. Ce mot ne veut pas dire, par contre, un être seul, mais ce mot veut indiquer l'unité, ou un composé de plusieurs. Au lieu d'avoir un panthéon de dieux que nous façonnons d'après nos propres désirs, nous avons Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui sont un, qui sont d'accord, qui sont composés d'un seul esprit. La compréhension de ce concept n'est pas le sujet de ce sermon aujourd'hui, mais il est important que chacun d'entre nous comprenne la signification de l'unité de Dieu. Revenons maintenant à la question encore une fois dans le contexte de ce sermon. Qui est notre Dieu? Si on a envie de connaître quelqu'un, on peut observer leurs faits et gestes, leur comportement. On peut même observer leurs paroles. Avec Dieu, c'est lui qui se révèle lui-même à celui qui choisit. Voilà des exemples de cette révélation de l'Éternel. Nous avons un Dieu qui est le législateur et juge. C'est quand même une partie de son caractère. Un Dieu qui est législateur et juge. Nous avons déjà lu aujourd'hui le passage dans Exode 20, dans lequel Dieu énonce la loi. S'il a énoncé cette loi, ce n'est pas pour rien. Entre deux commandements qui se trouvent au verset 5 et 6 d'Exode 20, Dieu nous rappelle tous le lien entre l'obéissance, aimer Dieu, c'est lui obéir, n'est-ce pas, et la miséricorde, et aussi le lien entre l'iniquité et la punition. Lisons ces deux versets. Au verset 5 et 6, je vais commencer avec les mots « car moi » ici. Exode chapitre 20 et verset 5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ce rôle de législateur n'a pas changé dans le Nouveau Testament. C'était celui qui est devenu Jésus-Christ qui était législateur en Exode chapitre 20. Et c'était Jésus-Christ qui est notre juge, qui est notre juge aujourd'hui. Jacques, en fait, l'apôtre Jacques déclare au milieu d'un autre contexte, dans son épître, cette vérité très importante. Reportons-nous en Jacques chapitre 4. L'épître de Jacques chapitre 4 et verset 12. Jacques 4, verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous avons un Dieu qui est sauveur, hein, qui est sauveur aussi. Voilà, nous avons déjà vu que le rôle de législateur et juge continue. Mais aussi nous avons, on a fait la transition avec ce verset, un Dieu, un seul Dieu qui est sauveur. Un Dieu qui est sauveur, est sauveur que ce soit d'Égypte, ou que ce soit le chrétien qui est sauvé du péché. Parce que en fait, Égypte a été sauvée, Israël a été sauvé d'Égypte, donc les enfants d'Israël ont été sauvés d'Égypte, et pour le chrétien, nous sommes sauvés, si vous voulez, du péché. Nous sommes sauvés, nos yeux sont ouverts au péché et nous avons l'opportunité, l'occasion de répondre à l'appel du Père et à changer nos vies pour suivre notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant en Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Et le verset 13. Exode chapitre 23 et le verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Ici, nous avons un sauveur qui nous demande de ne pas prononcer le nom d'autre Dieu. En fait, parce que le nom de notre sauveur, c'est Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Et si nous comptons sur lui, nous n'allons pas compter sur d'autres, en fait, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ceci est en contraste avec l'esclavage en Égypte, que ce soit l'Égypte qui a été connue par les enfants d'Israël, ou que ce soit l'Égypte du péché, l'Égypte figuratif, l'esclavage du péché. Donc, en contraste avec l'Égypte, nous avons ce processus spirituel qui est en cours ou qui a eu lieu quand Dieu nous a appelés de ce monde à changer notre vie, à changer de voie et à suivre sa volonté et à devenir, à lui servir au lieu de servir le péché. Reportons-nous maintenant aux Romains, chapitre 6. L'apôtre Paul a écrit quelque chose qui nous instruit sur cette idée de l'esclavage. Romains chapitre 6 et verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà, nous sommes soit esclaves au péché, ou soit esclaves en termes d'obéissance, esclaves à Dieu. Et c'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a sauvés de ce destin, si vous voulez, d'être esclaves au péché. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. Reportons-nous maintenant en Osée, chapitre 13. Ici, nous avons un deuxième ou un autre rappel du fait que c'est Dieu notre sauveur. Voilà un autre aspect de son caractère. C'est le fait qu'il est sauveur. Et c'est lui qui a choisi de nous sauver. C'est lui qui a choisi de nous appeler aujourd'hui en tant que chrétiens. C'est lui qui a choisi le peuple d'Israël. Osée chapitre 13 et verset 4. Et moi je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Il y a de sauveur que moi. Donc, il est le seul qui est capable de nous sauver de cette voie qui mène à la mort. Au verset 5, continuons à lire, « Je t'ai connu dans le désert. » Dans une terre aride. Il nous a connus en esclavage. Il a connu son peuple, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, même qu'ils étaient, pendant le temps qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et c'est en parallèle, en fait, qu'il nous connaissait avant de nous appeler. Et en fait, il connaît tous ceux qui l'appellent. Même avant de leur appeler. Donc c'est lui qui choisit, que c'est lui qui décide le bon moment pour appeler, et le bon moment, comme il a fait en Égypte, pour sortir son peuple de l'esclavage. Et implicitement, si Dieu nous a connus avant de nous appeler, et c'est si Dieu nous connaît aujourd'hui, c'est sûr qu'il nous connaît, implicitement, c'est nous qui devons lui connaître aussi. C'est implicite que qu'il nous dit à peu près, tu me connaîtras, ton Sauveur. Mais malheureusement, même ceux qu'il a sauvés du pays d'Égypte, ces personnes ont oublié sa voix. Ils ont oublié leur Dieu, leur Sauveur, et ils ont changé de voie. Ils sont allés chercher d'autres dieux, les faux dieux dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais d'abord, continuons avec le verset 6, ici, en Osée. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Voilà, c'est écrit que Israël avait oublié l'Éternel. Quand l'homme place les faux dieux de ce monde avant son Dieu, le vrai Dieu de l'univers, il a la tendance à tout oublier. En l'oubliant, nous transgressons la loi divine. Ceci est écrit en 1 Jean chapitre 3 et verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, si Israël a oublié l'Éternel, ils ont transgressé la loi. Voilà pourquoi nous avons tous besoin d'un médiateur. Nous avons tous péché. Donc, nous avons un Dieu qui est médiateur. Nous avons un Dieu qui est médiateur. Voilà une autre caractéristique de son caractère. Rapportons-nous maintenant à 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2. Aujourd'hui, nous avons un seul médiateur. Nous n'avons pas les sacrificateurs qui existaient dans l'époque d'ancien Israël. Aujourd'hui, nous avons un seul Dieu, un seul médiateur. 1 Timothée, chapitre 2, et versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu et en son propre temps. Donc ce médiateur n'est plus un être humain. Comment ce médiateur, Jésus-Christ, a-t-il pu prendre la place des sacrificateurs du temple? Comment s'est passé? Rapportons-nous maintenant en Hébreux, chapitre 9. Chapitre 9, Hébreux. Il est important de se rappeler que c'est Jésus-Christ seul qui était capable de nous sauver et de devenir un médiateur. Et pourquoi? Hébreux, chapitre 9. Et le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà, Jésus-Christ est devenu médiateur une fois pour tous. Jésus-Christ est celui dont le sang est capable de payer l'amende du péché pour toute l'humanité. Son sang est si précieux à l'humanité parce que c'est Jésus-Christ qui a créé l'humanité. Donc le sang de notre Créateur est capable de nous racheter, de nous laver, de payer l'amende du péché à notre place. Et c'est bien ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Il nous a donné l'occasion d'avoir nos péchés pardonnés, effacés. Nous avons un Dieu qui est créateur. Apportons-nous à l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 1. Dieu a créé tout ce qui nous entoure. C'est une création magnifique. Il nous a créé aussi. Il nous a donné la possibilité de voir sa création, d'entendre sa création, d'apprendre beaucoup de choses sur sa création. Jean chapitre 1 et verset 1. Jean chapitre 1 et verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, voilà, Jésus-Christ a été, dès la création, notre Créateur, et le Créateur de, non pas seulement l'humanité, mais tout l'univers. Ésaïe chapitre 45, voilà comment l'humanité a répondu à cette magnifique création. En fait, c'est l'humanité qui oublie son Créateur. Et la réponse de l'Éternel est assez sévère, mais cette réponse nous apprend jusqu'au point qu'il est notre Créateur. Notre faiblesse est son pouvoir, sa puissance. Ésaïe chapitre 45 et verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-il à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Verset 10. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc nous avons un Dieu qui est créateur. Verset 9 ici nous rappelle que le Créateur a créé nous comme vase de terre. Une vase de terre, c'est quand même quelque chose qui est créé vide, n'est-ce pas? Donc nous avons le sens que le Créateur n'a pas terminé sa création. En fait, c'est un caractère divin qui reste à développer. C'est Dieu qui nous a appelés, c'est notre Créateur qui nous a appelés, c'est le Père qui nous a appelés à s'approcher à lui. Et c'est lui qui travaille dans le cœur de l'homme pour terminer sa création. Aujourd'hui, il travaille avec l'Église. Demain, comme nous avons étudié, il va travailler avec avec tout le monde. Il va étendre son plan de salut à toute l'humanité. Mais il est en train de préparer l'avenir. Donc voilà quelques exemples qui nous aident à répondre à la question « Qui est notre Dieu ?» Il y en a bien d'autres, mais je crois que le fait de savoir que notre Dieu est législateur, sauveur, médiateur et créateur nous prépare pour poser la question suivante, la troisième question, qui est « Qu'est-ce qu'il attend de nous d'après ce premier commandement ?» Qu'est-ce qu'il attend de nous d'après ce premier commandement ? Comment obéir à notre Dieu, le Dieu de l'univers ? Revenons maintenant au premier commandement. Pourquoi est-il important que nous connaissions Dieu avant toute chose ? Pourquoi faut-il abandonner d'autres dieux, d'autres faux dieux, pour connaître le nôtre ? Il y a des religions aujourd'hui qui prient encore à un panthéon de dieux. Dans ces religions, un dieu n'est pas exclu à cause des autres. On peut les louer tous. Mais il est important que nous connaissions le Dieu que nous obéissons. Aujourd'hui, le monde autour de nous est plein de violence, avec des guerres et la souffrance partout. Ce monde est le résultat des choix des hommes. L'homme a choisi de faire sa propre volonté et Dieu l'a permis. Si nous ne reconnaissons pas le Dieu de l'univers en premier lieu, nous risquons d'être dupés par les ruses de ces faux dieux, principalement Satan, le diable. Nous risquons d'oublier que c'est Dieu qui nous bénit, que c'est Dieu qui est la source de toutes nos bénédictions, qui nous accorde chaque soupir. Nous, comme l'humanité, risquons de créer une sorte de philosophie que Dieu n'existe pas et que nous ne sommes que le produit du hasard, que c'est nous qui avons tout fait. C'est ça le faux concept de l'homme aujourd'hui. C'est une déception. L'homme oublie et a oublié son Dieu. Continuons avec cette question maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend de nous d'après ce premier commandement ? Si nous ne reconnaissons pas le Dieu de l'univers, nous risquons de nous trouver dans la difficulté lors du retour de Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant à l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, et lisons quelques versets ici. Commençons avec le verset 13. Aujourd'hui, il nous semble de temps en temps que nous sommes un tout petit peuple, nous sommes qu'un tout petit troupeau, et qu'il y a une grande voie très large qui mène et avec tout le monde qui part dans cette voie-là, et que nous sommes sur un petit chemin que personne connaît. Et donc, nous voyons ici que Jésus est en train de nous encourager, que notre chemin, que ça soit étroit, c'est normal, c'est prévu. Matthieu chapitre 7 et verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. » Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et maintenant, au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, ces faux prophètes. Et au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous n'aurons pas le droit, au retour de Jésus-Christ, l'homme n'aura pas le droit de répondre « oui, 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 mais j'ai inventé une loi codifiée et j'ai respecté ma propre loi à moi. N'est-ce pas acceptable ?» Nous voyons ici, d'après la parole de Jésus-Christ, que ce n'est pas acceptable. Il y a un seul Dieu qui est le Tout-Puissant dans tout l'univers. Il est obligatoire que nous soyons conscients de qui il est, qui est le Dieu des cieux, afin de connaître comment lui obéir. Il est important que nous connaissions, que nous comprenions son caractère, et ça nous aide à mieux obéir notre Dieu, non pas seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Jean chapitre 4. Reportons-nous maintenant à l'évangile de Jean et chapitre 4. Jean chapitre 4 et le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc il nous faut les deux côtés, l'esprit et la vérité. Connaître le Dieu de l'univers et lui obéir nous guide dans toutes nos relations interpersonnelles. Le fait de connaître notre Dieu et de lui obéir, c'est très instructif pour l'homme. Encore à l'évangile de Matthieu, reportons-nous maintenant encore une fois à l'évangile de Matthieu. C'est très important ici au verset 36 du chapitre 22, donc Matthieu 22 et verset 36. Nous avons ici une petite histoire qui souligne l'importance de ce premier commandement, ce grand commandement. Matthieu 22 et verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà quelqu'un qui demande à Jésus une petite explication de plus grand commandement. Et puis au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prenons note ici, frères et sœurs, de ces deux grands commandements. Jésus souligne l'objectif et le but principal de la loi de Dieu. Il n'est pas en train de supprimer la loi et les prophètes, au contraire, il est en train de nous donner le sens comme personne n'aurait jamais pu faire. De la bouche de Dieu, on peut même considérer les parallèles entre la foule qui se trouve rassemblée ici, en Matthieu chapitre 22, dans l'évangile de Matthieu, et la foule des enfants d'Israël qui se sont rassemblés au pied du mont Sinaï. Voilà ici au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. C'est lui aimer premièrement, lui chercher premièrement et entièrement aussi. Ici Jésus cite mot par mot les paroles qu'il a données à Moïse afin qu'il instruise le peuple d'Israël. Le peuple avait peur de feu. Donc c'est Moïse qui a pris la parole. Le peuple craignait l'Éternel. mais l'Éternel voulait communiquer son amour et cette idée, ce commandement qui, par rapport à Jésus-Christ, est considéré le grand commandement, un des deux grands commandements, qui résume notre façon d'aimer et d'obéir notre Dieu. Reportons-nous en Deutéronome. Voilà ce verset qui est cité par Jésus-Christ en Matthieu chapitre 22. Ici, en Deutéronome chapitre 6 et verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Voilà encore, nous avons lu ça tout à l'heure, le Shema. Et puis au verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute la force ou ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà l'idée d'obéir et de louer l'Éternel dans l'esprit ou dans le cœur, dans la vérité et dans l'esprit. Le premier commandement nous exhorte aujourd'hui de ne pas nous laisser distraire par d'autres faux dieux de ce monde. Y a-t-il des faux dieux de ce monde qui ont subtilement remplacé l'Éternel dans notre vie actuelle? Il y a toute une sorte de, tout un tas de possibilités, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit le travail. Il y a des gens qui sont complètement dédiés au travail avant toute chose. L'idée de juste avoir le plaisir, de chercher que le plaisir, au lieu de s'orienter vers le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers nous invite à le connaître de mieux en mieux, pas juste un tout petit peu, pas dans l'éloignement, mais de mieux en mieux. Quelles sont ses attentes de ceux qu'il a appelés aujourd'hui? Quelles sont les attentes de l'Éternel, notre Dieu? On peut résumer un peu ses attentes en trois points. Le premier point, reconnaître et ne pas oublier qu'il est le Dieu de l'univers. J'espère que tous les trois points ici correspondent bien au premier commandement. Parce que c'est d'abord, il attend de nous qu'on le connaît mieux. Deuxièmement, reconnaître et ne pas oublier. Je dis ne pas oublier parce que des fois, nous avons la tendance d'oublier, n'est-ce pas? Nous pouvons reconnaître, mais après un certain temps, il est trop facile à oublier ce que nous avons reconnu tout à l'heure. Donc, je dis reconnaître et ne pas oublier que l'Éternel a accompli ce que l'Éternel a accompli pour son peuple. Et pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons aussi méditer sur tout ce que l'Éternel a accompli dans notre vie. Et troisièmement, reconnaître et ne pas oublier la loi de Dieu. Donc nous avons trois points ici, très simples mais très profonds, pour mieux connaître notre Dieu, le Dieu de l'univers. Proverbe chapitre 1 et verset 6 nous instruit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, quand on craigne l'Éternel, c'est un début. Mais en Exode 20, chapitre 20, nous avons lu l'histoire d'un peuple qui, en entendant la voix de l'Éternel, tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il craignait l'Éternel, mais il craignait plutôt le feu que l'Éternel, n'est-ce pas? Il craignait un peu cette scène ténébreuse, et il craignait surtout, c'est même écrit, qu'il craignait le feu. Il tremblait en réponse, il se tenait dans l'éloignement. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Oui, nous craignons l'Éternel, bien sûr, mais cette crainte implique une révérence et un respect profond de son autorité, de sa sagesse et de son amour. Sans la foi dans ce Dieu majestueux et glorieux, l'homme n'est qu'une œuvre qui n'est pas achevée. L'homme reste dans l'éloignement, une vase vide. L'homme reste dans la confusion, dans les ténèbres. C'est le cas pour la plupart de l'humanité aujourd'hui, séparé du vrai Dieu. Frères et sœurs, focalisons-nous sur le vrai Dieu et cherchons-le de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous n'aurons point d'autre Dieu devant sa face, car nous sommes tout près de lui.